En Belgique, un rapport d'enquête présenté au Sénat vendredi dernier par l'historien Nico Wouters révèle que la SNCB a, je cite, quasi à coup sûr, reçu des paiements allemands pour la déportation de juifs. Nous en parlons avec Laurence Schramm, elle est historienne, docteure de l'ULB, auteure de nombreuses publications portant notamment sur l'histoire de la déportation génocidaire des juifs. Elle est au micro, bien sûr, de Lucie Gilson.
Bonjour Laurence Schramm.
Bonjour.
Un rapport d'enquête sur le rôle de la SNCV dans les convois ferroviaires de déportation a été présenté vendredi au Sénat par Nico Wouters. On pourra y lire notamment que la SNCV aurait reçu des fonds allemands pour la déportation des Juifs. Quels sont les éléments qui se dégagent de ce nouveau rapport ?
Il faut d'abord saluer cette étude qui a mis du temps à voir le jour et la découverte essentielle. Dans cette étude, c'est évidemment cette question du financement de la déportation, qu'elle soit raciale, politique ou pour d'autres motifs, qui a été rémunérée par un bureau allemand qui a payé donc ces déportations à la SNCB. Et on peut dire plutôt bien payé puisqu'il s'agit quand même de 51 millions de francs belges à peu près. C'est une étude qui se faisait attendre en Belgique puisque le cas a déjà été étudié aux Pays-Bas et en France et nous étions un peu à la traîne. Et il faut dire aussi que la recherche n'était pas simple parce que les sources sont lacunaires et très éparpillées.
Et justement, quelles sont les sources sur lesquelles se base ce rapport ?
Alors, les sources sont multiples et diverses. On a des rapports administratifs, des PV de réunion, on a des rapports financiers, on a des correspondances entre l'Allemagne et la SNCB, on a également des témoignages écrits ou oraux récoltés auprès de témoins ou retrouvés dans des témoignages qui ont été publiés ou pas. Donc, en fait, la recherche historique a été un petit peu compliquée par cet éparpillement des sources. Et il faut vraiment saluer ici le travail aussi qu'ont effectué Nico Wouters et Florence Matteazzi, qui ont vraiment ratissé le terrain de long en large. Et ces sources se trouvent, d'une part, dans des centres de documentation et d'archives en Allemagne. Elles se trouvent aussi en Belgique, à la SNCB d'abord. Dans les différentes sections des archives générales du royaume, je pense évidemment au CGSOMA et au service des victimes de guerre. Nous, à caserne d'Ossa, nous avons aussi livré les informations que nous avions et nous avons également donné des pistes de recherche, les archives communales, les archives des villes, aussi des archives privées parce que des gens du personnel de la SNCB de l'époque ont parfois conservé des archives à leur titre propre.
Et donc justement, pouvez-vous nous éclairer un peu plus sur le rôle spécifique de la SNCB dans les déportations pendant la Seconde Guerre mondiale ?
Mais il faut d'abord retracer un petit peu le contexte. Donc la SNCB va calquer son attitude sur les directives qui ont été données par le gouvernement belge en cas de guerre. Donc on prône une politique de moindre mal et une politique de coopération passive. Alors le but, c'est de rester présent à tous les échelons étatiques et para-étatiques à l'époque, pour éviter ce qui s'est passé en 14-18, c'est-à-dire que en créant un vide de pouvoir, l'Allemand était tout puissant, donc avec toutes les filières en main. Ici, le but, c'est d'éviter ça. Alors la SNCB, au début de l'occupation, est évidemment confrontée à un dilemme, parce que il faut continuer à amener des gens au travail, il faut continuer à assurer le ravitaillement de la population belge. Il faut que l'économie belge puisse tourner parce qu'on ne veut pas que le pays tombe en faillite et il y a des obligations. Et donc, c'est là que l'administrateur général de la SNCB va mettre le doigt dans l'engrenage. Donc, au nom de cette politique de présence et de cette politique du moindre mal, on va faire des compromis, on va accepter, on va continuer à travailler normalement avec l'autorisation de l'occupant, à condition de rendre certains services spéciaux, qui sont évidemment pas toujours conformes au droit de la Convention de l'AE, par exemple.
Et alors justement, comment la population belge a-t-elle réagi à ces implications, à l'implication présumée de la SNCB dans ses activités ? Y a-t-il déjà des discussions dans le débat public autour notamment des réparations ?
Si vous posez la question de l'attitude de la société belge à l'époque, on voit que les trains fonctionnent, on voit qu'on peut aller au travail et qu'on peut manger. Donc c'est essentiel. La question, il faut savoir que la déportation juive commence assez tardivement, c'est-à-dire que le premier transport va quitter le camp de rassemblement de Malines le 4 août 1942. Évidemment, maintenant, l'étude historique vient de défricher les terrains. Il y a sûrement encore d'autres découvertes à faire. Et la question se pose de voir quelles seront les suites données à ce rapport. Pour le moment, le rapport se base sur des faits historiques et sur des documents d'archives et ne préconise rien. Il ne donne pas de recommandations politiques. Ça n'est pas son rôle. Le rôle du CGS dans cette tâche était de faire le bilan de cette collaboration ou pas de la SNCB pendant l'occupation. Maintenant, ce qui se pose, c'est évidemment la communauté juive, je pense, la population juive dont les ancêtres ou les parents ont été déportés, se pose évidemment la question des réparations. Mais là, on n'a aucune prise de position jusqu'ici. Ça sera l'objet de discussions ultérieures entre un comité des sages qui inclurait donc les historiens qui ont participé à la rédaction du rapport ou à son comité scientifique, le Sénat et les experts et les archivistes de la SNCB. Une fois que ce travail-là sera fait, on pourra présenter ses requêtes ou ses conclusions au gouvernement et à la SNCB qui, elle, devra discuter de ça et prendre des décisions.
Est-ce que ça veut dire que la SNCB va être convoquée pour répondre de son rôle dans cette période ?
Mais pour le moment, on doit dire qu'on a eu la coopération quand même des archivistes de la SNCB et le comité des sages et le comité du Sénat sera évidemment en contact avec la SNCB. Maintenant, s'il y aura une commission d'enquête, si la SNCB devra répondre des faits devant le Sénat, probablement, mais je ne suis pas... Il y a pour le moment aucune décision qui a été prise à ce sujet, donc je ne peux pas répondre à la place des principaux intéressés.
Oui, je comprends. Ma dernière question, c'est plus, revenons un peu sur votre cœur de votre spécialité de recherche. Je voulais savoir, dans votre étude sur la caserne d'Ossin, avez-vous identifié des éléments particuliers ou des détails sur les paiements éventuels de l'Allemagne à la SNCV pour son rôle dans la déportation des Juifs pendant la guerre ? Et quel était le rôle, en fait, de la caserne d'Ossin dans la transmission de ces éléments-là à ce rapport ?
Je n'en ai pas trouvé et je n'en avais pas cherché à l'époque parce que ce n'était pas mon sujet. Quand j'ai fait mon doctorat sur la caserne d'Ossin et puis le livre, il n'y avait aucune monographie scientifique consacrée à ce camp de rassemblement pour déportés raciaux. Donc, mon sujet, c'était de rendre vie à ce camp, de le remettre en lumière et d'expliquer son but, pourquoi il a été créé, comment il a fonctionné, quelle était la vie quotidienne, l'analyse des transports. Maintenant, ce que j'ai fait en fonction des transports, c'est que j'ai essayé de recréer des itinéraires. parce que tous les trains n'ont pas suivi les mêmes itinéraires. Et le train, il y a des trains aussi qui vont transiter par Westerbork et qui vont notamment embarquer encore des tziganes qui sont détenus là à destination d'Auschwitz-Birkenau. Le rôle de la caserne d'Ossin, c'est uniquement de rassembler des déportés raciaux, donc des gens qui sont nés quelque chose, mais pas qui ont fait quelque chose, en vue de leur extermination à Auschwitz-Birkenau, centre de mise à mort et camp de concentration. La caserne d'Ossin, en soi, il y a également très peu d'archives allemandes qui sont restées. Les archives allemandes que nous possédons sont plus des archives qui nous permettent d'identifier les déportés. Et donc, c'est grâce à ces documents qu'on sait que 25 843 personnes, hommes, femmes, enfants, juifs et tziganes, ont été déportées de la caserne d'Ossin. Mais la logique est sans doute identique, c'est que dans le fonctionnement et le financement du camp de rassemblement, on essaye de faire porter le poids et les frais et les coûts à la population victime elle-même. Donc on confisque les biens, on saisit le contenu des appartements de manière à ce que l'occupant ait le moins de frais possible lié au fonctionnement de ce camp. Mais il n'y a pas entre les SS qui dirigent la caserne d'Ossin et la SNCB, il n'y a pas de... Enfin, je n'ai pas trouvé trace de contact. Ça se passe à un niveau supérieur, ça se passe probablement à la citoyenneté de Bruxelles et les SS du camp sont avertis quelques jours à l'avance qu'un train peut partir. Donc, on voit un rapport en disant, voilà... À la caserne d'Ossin, on a 1000 détenus prêts à partir. Et en fonction de ça, ça remonte vers la CIPOSD de Bruxelles, sans doute à Berlin. Et puis de là, on organise le transport ferroviaire. C'est la tâche d'Adolf Eichmann, entre autres.
Eh bien, je vous remercie d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et je vous souhaite une très bonne fin de journée.
Merci à vous de votre invitation. J'ai été ravie de pouvoir vous éclairer sur le sujet.